chapitre 2.
Chapitre 2.
Bonjour et bienvenue sur chapitre 2. Je suis Alice.
Et je suis Cécile.
Aujourd'hui, nous accueillons Jessica Zimmermann, alias Serial Mother. Bonjour Jessica.
Bonjour Alice, bonjour Cécile.
Donc, je disais Serial Mother, c'est encore le nom que tu utilises aujourd'hui, c'est ça?
De moins en moins. J'ai fait mon coming out. c'était le nom du départ où je parlais beaucoup d'enfants et maintenant je ne parle plus que des enfants. Du coup, je suis toujours Serial Mother, mais je suis aussi Jessica Zimmermann.
D'accord. Ok. Donc sur chapitre 2, on aime bien que les invités se présentent comme ils le souhaitent. Donc, tu peux nous dire ce que tu veux. Je te laisse la parole.
Alors, je vais dire tout ce que je suis pas. C'est pas mal, ça. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas un animal, je ne suis pas grand-mère, je ne suis pas une jeune fille, je ne suis pas mère célibataire, je ne suis... Voilà, non, blague à part, bah, je suis... Donc Jessica, j'ai 45 ans bientôt, ça fait mal. J'ai 4 enfants, un mari, un chien, une trentaine de livres à mon actif. Je fais des podcasts, je chante beaucoup mais pas bien. J'aime plein de choses, je sais pas quoi dire d'autre. Voilà, j'écris des livres, des articles à droite à gauche pour pas mal de magazines. Je fais un effet dans des podcasts, soit des billets d'humeur ou des interviews de sur la parentalité, principalement de maman d'univers différents, mais j'aime bien le point de départ de voilà, d'aborder quelqu'un en tout cas en l'occurrence par le prisme de la maternité, et ensuite ça voilà amène à d'autres sujets évidemment parce qu'on n'est pas que des mères. Voilà.
Oui, t'as plusieurs casquettes, hein, Jessica. C'est effectivement dans ta bio j'ai vu maman de 4 enfants, déjà c'est pas mal, un chien aussi c'est pas mal, 30 livres donc dont 2 romans si je ne m'abuse, podcasteuse, alors journaliste on va dire parce que t'écris des articles, on peut dire ça?
Oui, on peut dire ça. Moi, j'ai pas de carte de journaliste mais oui on peut dire ça.
Et il y a marqué aussi éditrice.
Éditrice, oui, parce qu'en fait, j'ai dirigé, comme tu le sais, je crois, j'ai dirigé 2 livres, pour le moment, 2 livres collectifs.
Oui.
Un sur l'amitié, et dans l'ordre, un sur les secrets de famille et un sur l'amitié féminine.
Oui.
Donc, j'ai complètement initié, organisé, j'ai eu l'idée des thématiques, j'ai regroupé à chaque fois 8-10 auteurs très talentueux, qui vont de Mélissa Dacosta, Olivier Liry, en passant par Sophie Dober, Eliette Abécassis, Agathe Ruga, Marie Robert, enfin plein de gens formidables. Donc là-dessus, j'ai fait un travail, et j'ai écrit à chaque fois dedans, j'ai fait un travail en effet de, oui, d'éditrice, tout à fait.
D'accord, ok.
J'ai pensé la chose, j'ai relu tout le monde, donc bien que tous ces gens-là n'aient pas tellement besoin d'être relus, mais j'ai mis tout ça en place, j'ai fait en sorte que 1 € par livre vendu soit reversé à une association qui donne à lire des livres aux femmes en prison. Voilà, donc c'est pour ça, c'est en ça que, en effet, je suis éditrice, même si j'appartiens à aucune maison d'édition. Enfin, d'ailleurs, j'appartiens à personne.
J'adore.
Voilà, non, j'ai été en l'occurrence pour Charleston.
Oui, ok. Alors, c'est édité, c'est un peu un freelance pour ces 2 projets que tu as menés avec plusieurs auteurs, en fait.
C'est exactement.
Ça. Ok, ouais. D'accord. Bon, on reviendra sur ta multitude de casquettes tout à l'heure. Pour te connaître un peu mieux, on a un petit jeu qui s'appelle le tac au tac. Le but, c'est de répondre rapidement aux 2 propositions que je vais te faire. Et la première qui te vient à l'esprit, bon, ça peut être drôle. On va voir qu'est-ce qui te vient à l'esprit ou pas. T'es prête?
Prête.
Thé ou café?
Café.
Un tri ou dessert?
Dessert.
T'as hésité là.
Non, parce que je voulais dire les 2, mais bon.
Ah oui, bah oui, le but c'est de choisir. Ouais, dommage, ouais. Oui. Comédie ou film dramatique?
Les 2 aussi, mais dramatique.
Ah, plutôt au tas, tu vois? Ouais.
J'aime bien pleurer. Non, non,
t'aimes
mais
bien pleurer.
En vrai, j'aime les deux. En vrai.
Oui, parce que il y a quand même l'humour caractérise beaucoup tes écrits en général.
Oui, mais tu sais, l'humour c'est souvent aussi la forme de la politesse du désarroi, quoi. Je sais plus qui disait ça, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que l'humour c'est aussi une façon de dire des choses sérieuses et de prendre le parti, bah oui, d'en rire parce que c'est plus chouette de rire, mais souvent je peux dire des choses graves en rigolant, voilà.
D'accord. Été ou hiver?
Hiver, enfin, j'aime pas les grosses chaleurs. Alors, je trouve qu'il était, c'était 40 degrés à se traîner comme une vache à la retraite. Je préfère l'hiver où je peux mettre des gros pulls.
D'accord. Je reviens sur la nourriture. Vin ou champagne?
Vin rouge.
Ah, bon. Tu fais pas de bulles, toi. Plutôt vin rouge.
Bah, je suis pas très chouette. Ouais, en fait, j'aime pas, je crois, le vin blanc, donc bulle ou pas bulle d'ailleurs. Enfin, voilà, j'aime le vin blanc.
Bah, ça nous donne plein d'idées après à tes fans pour t'offrir des bouteilles de rouge, tu vois là, des desserts.
À mes fans.
Bah oui, à tous ceux qui viennent te voir à dédicace.
Ouais, je préfère le vin rouge alors.
Et la grenadine. Pour le vin rouge.
Et la grenadine.
Oui, c'est pas pareil là.
Non, mais c'est rouge.
Oui, c'est faux. C'est pas faux.
Je bois pas beaucoup d'alcool.
Tu bois pas beaucoup d'alcool, ouais. C'est sérieux.
Non, mais c'est pas parce que si je me fais un dîner au resto ou chez des potes, mais sinon je suis pas du genre à ouvrir une bouteille tous les soirs à la maison, quoi.
Oui, oui, mais t'es pas alcoolo, quoi, en fait, oui.
C'est ça.
Non, parce que ouvrir une bouteille tous les soirs, ça fait un peu d'obligé, quoi.
Il y a beaucoup de gens qui boivent un verre tous les soirs. Je sais pas si c'est alcoolo, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui le font.
Il paraît que quand t'es obligé, enfin, que tu te sens obligé tous les jours d'en boire, c'est que tu l'es. Bon, en tout cas, c'est le début.
Bon, après, en tout cas, pas moi. Pas.
Ouais, pas après, moi, je pensais la bouteille carrément quand t'as dit ça tout à l'heure. Hein. Elle est en train de boire, justement. Bon, on a plus, c'est clair. Donc, c'est
de l'eau, c'est bon.
Ou en tout cas, quelque chose de très clair. C'est pas du whisky, hein. C'est la même couleur, comme ça. Donc,
Le whisky? Non, du gin.
Non, non, c'est de la vodka, c'est de la vodka.
Ah, voilà.
Vodka. Oui, t'as raison. Allez, je continue mes petites questions. Marque-page ou Cornet les pages?
Cornet les pages.
Ah, toi aussi, mais, c'est dingue, ces auteurs qui cornent les pages. Mais comment vous faites?
Mais en fait, j'en sais rien. Je me suis jamais posé la question, mais j'ai plein de marque-pages. Et puis, en fait, non, vraiment jamais, j'utilise de marque-pages. Jamais.
Et c'est pas la peine d'en offrir.
Ouais.
C'est pas la peine. Non, c'est pas la peine de m'en offrir. Non. Je sais pas. Je crois que j'aime bien c'était pas un choix, d'ailleurs. Je corne les pages.
Et ça te gêne pas qu'elles soient abîmées après? Tu t'en fiches?
Non, mais ça les abîme pas vachement. Et puis moi, je trouve qu'un livre, doit vivre. Donc les pages cornées, les pages parfois mouillées quand je lis un livre dans le bain, les pages qui semblent en tout cas avoir été lues et utilisées, ouais, j'aime bien.
C'est dingue parce qu'en fait, vous êtes. J'ai l'impression que tous les auteurs, c'est votre marque de fabrique, d'en faire de tout. Pas de marque-page, et les livres qui vivent, qui sont cornés, mouillés, sales, de café, des trucs, tu vois. En fait, ils ont une vie, le livre. Alors que nous, lecteurs, on est hyper. On fait vachement gaffe.
Je suis lectrice avant tout et c'est vrai que j'aime bien les vrais livres. Je l'ai mis jamais sur des liseuses, tablettes, ça, j'ai essayé, je n'aime pas.
Tu aimes bien le papier, quoi.
Ouais, j'aime le papier, j'aime les garder, j'aime qu'ils soient, les mettre dans ma bibliothèque, les prêter, qu'on me les rende, souligner des mots, des phrases, tu vois, mais j'aime bien.
Ok. Écriture en solo ou à plusieurs?
En solo. Après, c'est ça vrai? Dépend, tu vois. Ça dépend des projets. J'ai écrit un livre l'année dernière sur l'humour, que j'ai coécrit avec Julie Mamoumani, alias Mamouze. Évidemment, on l'a écrit à deux parce que c'était un livre qu'on a écrit à deux. Mais sinon, non, j'aime bien être toute seule. Mais toute seule, ça ne veut pas dire que je suis nécessairement dans une pièce seule. Tu vois, je peux être dans un café, ou en tout cas pas avec les gens que je connais. Voilà.
D'accord. Non, mais les projets, t'es quand même, tu préfères les mener toute seule sur les livres, par exemple un roman, plutôt qu'un livre écrit à plusieurs. C'était plus dans cette optique-là.
Ah pardon, j'avais pas compris. Non, parce que j'ai fait autant de, enfin pas autant, j'ai écrit beaucoup de livres toute seule, mais j'ai écrit des livres collectifs, d'ailleurs, parce que je disais tout à l'heure que.
Oui.
Voilà, bon, après, on les a pas écrits ensemble, les nouvelles. C'est-à-dire que
chacun de ses enfants.
Avec Julie Mamou, on a écrit le livre à deux. Là, je suis en train d'écrire, là, je suis en train d'écrire deux livres à chaque fois à deux. Et ça me plaît aussi. Donc, je suis fermée.
Tu peux pas choisir.
Non. Ouais. Je suis assez cool. de façon générale. Et en effet, j'ai pas de truc, pas trop ni de rituel ni de je me bloque dans rien en fait, voilà,
d'accord,
ni dans un genre ni de, tu vois, je, et bon, ça on en parlera peut-être après, mais je peux autant écrire un livre qui s'appelle pour les enfants qui s'appelle Tutu Cacaprou, qui peut écrire une Noël sur la Shoah, que écrire un livre sur l'humour, qu'écrire un roman, que je suis, alors je sais que c'est pas très français de faire comme ça, mais après, moi, on m'a d'ailleurs, une fois, on m'a dit, mais tu devrais changer de nom selon si t'es écrit des livres, genre, par exemple, j'ai écrit un livre Vieil et gris et toujours seul, qui était un peu la suite de manger du gluten, boire de l'alcool et baiser le premier soir. On m'a dit, mais tu peux pas écrire ça et ensuite écrire un roman avec des personnages un peu attachants, un peu tristes, un peu. Et en fait, je pense que c'est que je suis, donc je vais pas me forcer, je vais pas prendre un nom d'emprunt, puis je suis pas assez connue non plus, je pense que c'est pas ça, mais surtout que j'aime j'aime les livres un peu sérieux, mais j'aime aussi les livres légers, c'est comme les films tout à l'heure qui me demandaient si j'aimais plutôt les films tristes ou les comédies, mais je crois qu'on peut aimer les tuches et aimer le parrain et mais on est heureusement plusieurs choses. Je peux écouter aussi en termes de musique, je peux écouter du Barbara et le lendemain écouter du Diams, enfin je sais pas, voilà quoi. C'est heureusement que on est, enfin en tout cas j'espère que les gens ne sont pas que dans une voie.
Ouais, tout à fait. Ok, bon, la dernière. Action, vérité.
Vérité.
Ah, non, justement, j'ai une question. Elastie, je n'aurais peut-être pas dû dire ça.
Si j'avais dit action, tu aurais dit quoi?
Ben, tu ne sauras jamais.
Bon, elle aurait trouvé quelque chose.
Non, la vérité simple. Quel est ton plus grand rêve dans la vie? Aujourd'hui, Jessica, presque 45 ans, quel est ton plus grand rêve? Aujourd'hui, pas celui que tu as déjà réalisé.
Écoute, j'ai, comme tout le monde, j'ai plein de rêves de devenir milliardaire et de partir en vacances toute l'année. Mais c'est pas, bon, un peu irréalisable et je suis pas sûre que ça m'amuserait en vrai. Évidemment, je vais pas te dire la paix dans le monde parce que c'est aussi irréalisable. donc, écoute, vraiment, je suis arrivée à un stade, enfin, où je suis bien. J'ai la chance, d'avoir dans en termes familial un équilibre, des enfants formidables, pas toujours mais globalement formidables, mon mari que j'aime depuis presque 30 ans, donc voilà, on a beaucoup de chance, on est en bonne santé et professionnellement j'ai la chance, ça n'a pas toujours été le cas parce que ça faut du temps pour installer quelque chose, mais aujourd'hui j'ai la chance de faire plein de projets qui me plaisent. De pas galérer, si j'ai un projet, je me suis fait un, voilà, je connais des éditeurs, ça veut pas dire qu'ils me disent tout le temps. Mais en tout cas, j'ai beaucoup bossé pour en arriver là. Et si tu me demandes quels sont mes rêves, bah, que ça continue comme ça. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est déjà pas mal.
Mais c'est génial, hein, en même temps. Si t'es déjà dans une optique de te dire, oh, tout ce que j'ai, je l'aime, c'est super.
Bah oui, mais je crois qu'il faut aussi avoir le recul nécessaire pour se rendre compte que quand on a des choses chouettes, faut s'en rendre compte. J'ai pas envie de monter les marches à Cannes, je sais pas ce que peuvent répondre les gens, tu vois, ou de rencontrer l'amour, je l'ai déjà. Non, mais je mesure ma chance et ça, enfin c'est pas que de la chance d'ailleurs, c'est du boulot, que ce soit dans le couple, dans le boulot, dans les relations humaines, c'est ouais. C'est du boulot, ça veut pas dire que c'est horrible, hein, mais ça veut dire que ça se travaille, quoi, tout ça.
Ça s'entretient, tout ça, oui.
Ça s'entretient, l'amitié, l'amour, le boulot, voilà, ça s'entretient.
Voilà. Ok. Et puisqu'on est dans une introspection, ça va être le moment de la Madeleine de Proust de Cécile. Alors, j'aime bien ta tête, Jessica, parce que tu as compris, c'est la séance de psy gratuite que... qu'on te fournit aujourd'hui. Alors, ça va être des questions un petit peu plus intimes et retour en arrière, souvenirs, tout ça. Donc, Cécile, mener cette rubrique.
Alors, bienvenue dans la Madeleine de Proust. Donc, comme le disait Alice, ce sont des petites questions un peu douceurs. On s'adresse à la Jessica qui a 10 ans. Et s'il y a des questions qui ne plaisent pas en switch, il n'y a pas de souci, on en trouvera d'autres. Est-ce que tu es prête?
Ouais.
Ok. Alors, Jessica, quand tu étais enfant, c'était quoi pour toi le bonheur?
Waouh! C'était d'être avec mes copines, je crois, et de faire des pyjamas parties en mangeant des bonbons et en regardant un Disney. Ouais, ça, c'était le bonheur.
J'adore cette réponse. C'est vraiment, on a l'impression que tu l'as pas oublié, ton enfant de 10 ans. C'est ça qui est super.
Et en plus, c'est un petit bonheur qu'on peut refaire adulte, en plus.
Bah oui,
ah bah, bien
le
sûr.
Dessin animé, impeccable.
Tout à fait, tout à fait.
L'anecdote la plus drôle, ou en tout cas celle qui te laisse le souvenir le plus rigolo de ton enfance?
Je réfléchis. Alors, je suis très maladroite depuis que je suis petite. Pas très drôle, mais je suis, voilà, on m'a toujours surnommée quand j'étais petite. Je trouve maladroit. C'est vraiment, voilà, je me prends la vitre quand la porte n'est pas... Enfin, je crois qu'elle est ouverte, en fait, elle est fermée. Je me suis pris une porte de métro, je me suis pété. Alors, c'est pas drôle, mais surtout, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'arrive à avoir assez de recul pour, tant que c'est vraiment pas dramatique, en l'occurrence. Voilà. Et l'anecdote, je sais pas, j'étais, alors c'est pas drôle non plus, mais finalement, ça devient drôle. J'étais très, très, très mauvaise en maths, mais je crois que depuis le, toujours. Et j'ai eu un professeur en seconde, je crois, j'ai eu un truc comme -8. Il m'a écrit, vous n'avez rien compris, vous raterez votre vie. Et en fait, ouais, c'était violent quand j'y repense, mais sur le moment, bah, déjà, je savais que j'arrêterais les maths dès que possible. Et donc, en fait, j'ai trouvé ça, je me suis pas du tout mise à me dire qu'il avait raison, que j'allais rater à mes vies parce que j'avais eu à 15 ans à -8 en maths. Et en fait, ça m'a vraiment amusée. J'ai gardé la copie que j'ai toujours, que j'ai encadrée, que j'ai mise dans mes toilettes. Et je trouve que, alors sur le moment, c'est pas un truc plus drôle, mais moi, j'ai pris le parti d'en rire et de la garder 30 ans plus tard et de me dire, non, mais le mec, quoi, en fait, faut être quand même bien, bien allumé pour, et peu pédagogue pour dire quelque chose comme ça à quelqu'un. Et voilà, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut mettre un peu de distance avec la réalité parce que sinon, on se pend, quoi.
Ouais, c'est clair.
Tu lui as pas renvoyé la copie aujourd'hui que t'es adulte? Tu t'en fiches?
Non, parce que je sais même pas s'il a encore envie, mais... non, mais j'aurais dû. En fait, sur le moment, ça m'a tellement pas vraiment atteinte. Mais aujourd'hui, un truc comme ça arrive. Ouais. Évidemment, on aurait conseil de discipline. Enfin, ouais, à son égard, je pense qu'on m'a dit conseil de discipline, les parents qui s'en mêlent. Enfin, c'est quand même hyper violent.
Oui, c'est très violent.
Vous allez rater votre vie. Ouais. Je crois que j'ai pas raté ma vie, même si c'est pas bien ce que ça veut dire. Mais en tout cas, bon. Et puis, j'ai plus jamais fait de maths. Et ça, c'est drôle.
Oui, c'est clair. Dernière petite question. Alors, il faut vraiment se placer dans la tête de la Jessica qui a 10 ans. Pas l'adulte. Donc, tu as 10 ans. Quel est ton super pouvoir?
Mon super pouvoir, c'est de lire dans les pensées des gens.
Ok.
Et je crois que je le fais. La meuf qui croit.
Elle vient de nous annoncer qu'elle a un super pouvoir, je crois, Jessica. Faites
gaffe. Non. Mais j'ai toujours, mais je pense que ça fait partie de l'imagination que j'ai. C'est-à-dire que j'ai toujours et je continue de m'asseoir, moi, et de regarder les gens et d'essayer d'imaginer leur vie. Et je le fais au café, dans le métro, et je le faisais vachement quand j'étais petite, quoi. Alors, encore plus, parce que j'avais plus de temps, un peu plus d'imagination, quoique. Ouais, et j'aimais bien imaginer ce qu'ils pouvaient penser. Alors évidemment, je les ai pas vraiment dans leur pensée, mais à force d'imaginer, parfois tu finis par y croire. Et donc voilà. Donc ça c'est un super 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 pouvoir.
C'est clair. Qui est plutôt utile pour une autrice du coup.
C'est tout.
T'as qu'à faire.
Oui, tout à fait. En vrai, je sais pas si j'aimerais vraiment le dire dans les pensées des gens parce que
ça peut être flippant.
Ça peut être flippant. Voilà.
Oui, ça dépend de pouvoir choisir les gens à ce moment-là.
C'est clair.
Tes enfants, par exemple, c'est bien de pouvoir lire dans les pensées de tes gosses. Ah, des fois.
Ouais, je sais pas. Ouais, des fois. Mais bon, c'est bien aussi de les laisser vivre leur truc, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà mon super pouvoir.
Eh bien, merci beaucoup pour ces réponses.
Merci, Cécile.
J'ai une question par rapport à ta vie et tes multicasquettes. Donc, maman, 4 enfants, 30 livres, podcasteuse, journaliste, on l'a dit, tu fais énormément de choses. Et là, la question que je me pose et qu'on se pose tous, comment tu fais pour gérer tout ça?
Alors, déjà, c'est gentil parce que j'ai pas l'impression que j'en fais tant que ça, mais je pense que c'est enfin comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont, enfin je trouve pas des vies non plus. Je crois que mon activité, elle est comme toutes les femmes qui travaillent en fait et qui ont, peu importe le nombre d'enfants. Enfin évidemment, t'as sûrement plus de trucs à gérer quand t'en as 6 que 2, etc. Mais d'abord c'est une question d'organisation et puis ensuite je pense que c'est la force des femmes, des mamans. D'arriver à faire plein de choses et je crois qu'il faut juste oublier de pas s'oublier, c'est-à-dire que j'ai bon maintenant les enfants sont quand même plus grands mais je m'accorde de temps en temps une fois ou deux dans l'année des week-ends avec des copines, même des moments où je pars toute seule 2 jours à la campagne avec mon chien. J'aime bien être seule en fait. Alors évidemment j'ai 4 enfants et ça fait du bruit, du bazar, mais maintenant encore une fois, c'est plus des bébés, mais je pense que, comme toutes les femmes, enfin, honnêtement, et puis je travaille assez vite. Donc ça, c'est
ouais, ça aide.
Ça aide. Après, ça dépend des projets, mais il y a des livres que vraiment je peux écrire en 4 jours. Et après, un roman, comme le dernier, évidemment, c'est plus long. Enfin, bien que je l'ai écrit très très vite, mais que le travail de relecture, enfin, de réécriture a été plus long. Mais j'ai un truc, c'est que je peux passer des jours entiers à procrastiner. D'ailleurs, je suis pas chez moi à regarder la télé, c'est pas du tout le truc, mais je marche, je réfléchis, et après il y a des jours entiers où je vais bosser à fond. Enfin, tu vois, c'est un peu. Et puis j'ai la chance, j'ai pas de patron, j'ai pas de collègue, j'ai pas d'horaire. Je peux me réveiller à 5 heures du matin si je veux terminer quelque chose, ou me coucher plus tard. Je peux travailler partout. Je peux partir même en vacances et être avec les enfants toute la journée et puis à partir de 20h le soir bosser jusqu'à 2h du matin. Enfin, c'est quand même une chance. Oui, mais voilà, c'est quand même une vraie chance, quoi, de pouvoir profiter des enfants et de voilà, enfin de pas avoir de juste, et je m'en rends compte, hein, c'est une chance inouïe, quoi, d'être mon seul
patron.
Patron est un mot un peu, peut-être pas exact, mais en tout cas d'être seul, quoi. De travailler seul, de mener les projets seul ou à deux, mais bon, en tout cas, voilà, une fois que j'ai signé un contrat pour écrire un livre ou que je dois rendre un article, à ma charge ensuite de me dire, voilà, je vais l'écrire en 1 heure ou je vais l'écrire en 6 mois. Je schématise évidemment, mais je vais pas écrire un livre en 1 heure. Mais, je prends mon ordi avec moi partout, je me pose dans un café, je vais chercher les enfants à l'école, je continue de travailler le soir, je fais des journées où je travaille moins, des journées où je travaille plus, selon les projets, selon les envies, l'humeur du jour. Et à part ça, je pense que je suis vraiment comme tout le monde. Et encore une fois, je ne sauve pas des vies non plus, donc il n'y a rien de
oui,
extraordinaire.
Mais bon, tu es une bosseuse quand même, mine de rien.
Oui, mais mine de rien. Non, mais je pense que de l'extérieur, les gens peuvent se dire, wow, elle a 4 enfants, elle écrit des livres, elle a la vie, et là. Mais, je crois que c'est assez, enfin, je dis pas ça du tout, de façon, le terme me vient pas, mais
Pose modestie.
Ouais, mais je crois que je le fais de façon assez simple parce que j'aime ce que je fais et que du coup, comme tout ce qu'on fait, moi par exemple, je suis pas sportive. Donc quand je vois des gens qui me disent je fais le marathon, je suis genre waouh, moi je peux même pas courir 10 minutes. Et eux ils me disent ouais, mais moi je, enfin voilà, je pense que on a chacun une zone de génie ou de confort ou de je sais pas quoi. Il y en a qui voilà qui courent 2 heures et qui sont contents et qui sont à peine essoufflés. Et quand moi je cours 5 minutes, et j'ai horrible. Il y en a qui me disent mais attends, mais c'est incroyable, c'est un talent de savoir écrire. Moi je sais même pas écrire une lettre et pour moi c'est vraiment facile. Encore une fois, je suis pas Victor Hugo, mais c'est vrai que c'est un truc très facile pour moi. Il y en a d'autres qui se mettent au piano et qui peuvent jouer du piano de façon fluide et naturelle. Et je pense que chacun, voilà. Et puis encore une fois, il y en a qui sauvent des vies et pour qui c'est simple. Et moi, je n'aime pas la vue du sang. Donc, chacun, voilà. Je pense que quand on a trouvé, en fait, je pense que voilà, quand on a trouvé son domaine de compétences, quand on a la chance, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix, évidemment, mais quand on a la chance de trouver son domaine de compétences, sa cause, son voilà, il y en a pour qui sont très épanouis en étant mère au foyer et c'est formidable.
Donc avant d'écrire tes romans, tu as commencé par le blog et comment on passe de l'un à l'autre? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi?
Alors en fait, je lançais le blog vraiment au départ pour enfin il y avait pas de il n'y avait pas de loup derrière ça. C'était pour m'amuser parce que je trouvais, c'était, il faut se mettre dans le contexte, même qui est pas si lointain, mais quand même, c'était il y a, je sais pas, 12 ans par là. Et à l'époque, je trouvais que on parlait des enfants soit de façon formidable, j'aime mes enfants.com, ils sont merveilleux.org, etc. soit c'était les livres comment rendre mon enfant intelligent avant 6 ans, ouais. Comment réussir l'éducation avant ses 4 ans. Et bon, et je me disais, et puis dans la vraie vie, en fait, avec mes copines, j'avais déjà deux enfants à l'époque, j'avais que deux enfants. Dans la vraie vie avec les copines, c'était pas du tout ni l'un ni l'autre en fait. Et soit on était un peu genre desperate housewife en mode on les aime mais ils nous cassent la tête,
ouais.
pour pas dire autre chose. Et soit c'était un peu ce truc de genre waouh, j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants, mais en fait c'était mieux quand j'en avais pas, j'étais plus libre, je pouvais sortir avec mes copines, mon mari, faire ce que je voulais. Donc et je trouvais que on parlait pas assez de toutes les galères qui vont autour de la maternité, les nuits blanches, les cernes, les moments où tu mets 12 ans à ouvrir ton lit parapluie, à fermer ta poussette, à savoir si tu lui as donné à manger ou pas, quel sein, quel truc, si t'as bien mis la dosette, merde, j'ai plus le lait le matin, flûte, il a chié partout, mince, j'ai dû vomir sur mon t-shirt et je dois aller travailler. Bon, et en fait, tous ces trucs de la prime enfance plutôt que de l'adolescence, je trouvais que voilà, il y avait une espèce de truc genre on n'en parle pas, l'enfance c'est formidable, devenir mère c'est génial. Et puis un jour j'ai lu le livre d'Eliot Abécassi, avec qui je suis devenue copine entre eux depuis, qui s'appelle je ne sais plus quoi, où elle parle, enfin j'ai un peu de mémoire, elle parle de la maternité d'une façon assez déculpabilisante. Ça va me revenir le titre, où elle dit en fait je me suis regardée dans un miroir, je ressemblais plus à rien, j'étais fatiguée, est-ce que vraiment j'aimais cet enfant que j'avais tant désiré, est-ce que c'est ça la vie que j'avais choisie. Bon, elle le disait avec les mots très littéraires d'Eliot Abécassi, et je me suis dit en fait ouais, je vais lancer un blog pour rigoler de cette condition entre guillemets d'être maman. Et puis au départ c'était vraiment drôle et c'était vraiment je sais pas, j'avais pas d'ambition particulière, ça a été lu par ma meilleure amie, ma mère, j'en sais rien, enfin les copines. Et puis le truc pourquoi les choses tout d'un coup marchent, voilà, une personne, deux personnes, 100 personnes, 1000 personnes, etc. Donc le voilà, la page Facebook Serial Mother a pris. À l'époque j'écris un billet par jour, j'étais au taquet parce que j'avais plein de trucs à dire, et puis j'ai trouvé vraiment des gens. Voilà, ça faisait écho en fait dans la tête de certaines mamans qui me disaient waouh, merci, parce que ça me fait rire, ça me déculpabilise. Oui, on a le droit de dire que on était mieux avant, même si, encore une fois, je remets absolument pas en question, quoi, mais je me couperais mes deux bras pour mes enfants. Mais c'est vrai qu'on a le droit de dire que, il y a des moments où, où on n'en peut plus, où on est fatigué, où on se pose des questions, où on se dit, mais pourquoi je me suis embarquée dans ce truc, quoi. et voilà, moi, je l'ai fait pas de façon dramatique, quoi. Je l'ai vraiment toujours traité avec, avec humour, et quand j'ai vu que ça prenait et que, bah, que certaines mamans me disaient, ah, merci, vous avez réussi à me faire rire sur mes nuits blanches, je me suis dit, cool. Et donc, le truc a grossi, un peu, beaucoup, voilà, passionnément. Et un jour, j'ai été contactée, mais vraiment, par hasard, par une éditrice chez Stock. Donc au début, j'ai cru que c'était une blague, bien évidemment. Qui m'a dit, bah, j'aime bien vos chroniques, j'en avais écrit, ça faisait déjà un an, je lui dirais, est-ce que vous voulez pas en faire un livre? Donc, moi, évidemment, tout de suite, je me dis, ok, c'est une arnaque. C'est comme ces gens qui disent, envoie-moi un million, je suis en Afrique, je meurs de, j'ai besoin de ça. C'est une arnaque à la carte bleue, quoi. Et puis, bah, en fait, non, j'ai rencontré et j'étais complètement vaccinée. Moi, j'avais jamais, non, c'est pas vrai. J'avais déjà écrit un guide sur Paris et les enfants chez Lonely Planet. Ouais. Quoi faire avec les enfants, blablabla, parce que je faisais beaucoup de trucs et que mes copines me disaient, non, mais j'étais toujours celle qu'on appelait pour dire, c'est française, week-end, dans quel musée on peut aller, quel aquarium, quel film, quel truc. Donc, j'ai commencé, j'étais journaliste à l'époque, j'ai commencé en faisant des guides, mais bon, c'était moins, bon, c'était des guides qui étaient super, d'ailleurs. Et donc quand j'ai rencontré cette personne chez Stock, elle m'a dit bah voilà, franchement, on aimerait faire un peu comme ils avaient déjà publié les chroniques de la tribulation d'une caissière, je crois.
Oui.
Chez Stock, qui avait bien marché. Ils se sont dit on va faire les tribulations d'une maman. Bon, ça s'est juste appelé Serial Mother.
Ouais.
Et donc j'ai repris des trucs que j'avais déjà écrits, j'en ai écrit d'autres et le livre est sorti. Et à partir de là, bah j'ai écrit un livre et puis ensuite un autre. Et voilà, blablabla. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'au départ, j'ai quand même écrit une quinzaine de livres sur la maternité, de façon drôle, hein. Évidemment, je suis pas une médecin ici. Et puis, alors, au bout d'un moment, quand t'as quand même écrit 15 fois à peu près le même livre sous d'autres formes, je me suis un peu, ces trois dernières années, je dirais, éloignée de ça pour écrire d'autres choses. Voilà, d'autres choses.
Ok.
D'accord.
Peut-être ces 5 dernières années.
Oui, justement, je suis en train de regarder ton premier roman, celui d'après, que j'ai lu. Alors, parce que moi, je t'ai pas découverte avec le blog, mais je t'ai découverte avec le premier roman, bizarrement.
Ah ouais?
Comme quoi, tu vois. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert après ton univers. Serial Mother et tout, et l'humour et tout le reste. Donc ton premier roman, il est sorti en 2017, celui d'après, et j'ai vérifié, hein, parce que c'est comme ça. alors qu'une histoire quand même assez poignante, hein, moi je trouve, plus que ton deuxième, enfin par la construction de ça, oui. Et ensuite, tu as écrit un autre roman qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle « Et que chacun se mette à chanter ». Pardon. Il s'est passé 6 ans entre les deux. Mm. Question, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de réécrire un roman, du coup?
Bah, alors, il s'est passé 6 ans, mais j'ai pas.
Non, mais tu as fait plein de choses. Oui, mais au niveau des romans, je voulais dire. Ouais.
Bah, je crois qu'il faut pas porter, en fait, c'est-à-dire que j'avais pas d'idée, enfin, mais j'étais pas, c'était pas une souffrance non plus, hein. J'étais pas en train de me dire, oh, faut absolument que j'écrive un roman, etc., puisque, en effet, j'ai quand même fait, en 6 ans, 7 ans, je sais plus, 6 ans, plein d'autres choses, plein d'autres livres, dont les livres, là, en effet, collectifs, que j'ai adoré, diriger, et auxquels j'ai adoré participer, et puis j'ai écrit des livres. Enfin, bon, j'ai fait plein de clips depuis, mais je crois juste que j'avais pas le, bah, pas forcément l'envie d'abord, et puis pas forcément l'idée, ou l'inverse d'ailleurs, pas forcément l'idée, pas forcément l'envie, mais vraiment c'était, enfin, en fait, moi je suis pas du genre à calculer, il y a des gens, je sais, qui se disent tous les ans, faut que j'écrive un livre, il y a mon public qui m'attend, bon, alors moi déjà je pense que mon public ne m'attend pas, mais tu sais, il y a ces gens qui
j'aime bien quand tu dis ça.
Non, mais c'est vrai, mais je pense qu'il y a des auteurs que j'aime beaucoup, hein, mais et qui, voilà, tous les ans à la même date sortent un roman ouais. parce que il faut entretenir le truc parce qu'ils ont envie évidemment en premier lieu parce que leur éditeur sûrement leur dit allez il faut que tous les ans mois d'avril mai décembre peu importe on attend le nouveau Mark Levy le nouveau Grimaldi le ouais. nouveau Shakespeare. Bon moi déjà je suis beaucoup moins attendue et moins connue et ensuite bah puisque personne quelque part ne m'attend j'ai la chance oui. bah oui en fait j'ai la chance de prendre le temps de et puis de voilà de faire d'autres projets je fais des trucs tellement différents dans l'écriture que bah, moi je trouve ça génial et après je trouve ça aussi génial hein, de sortir le roman de l'été tous les ans au mois de juin mais en tout cas c'est pas je crois que c'est juste simplement assez peu réfléchi de ma part donc voilà.
Il y avait d'autres projets entre-temps, donc...
Oui, okay. et comme tu disais tout à l'heure, tu aimes bien être libre, donc ça aussi, c'est la liberté de pouvoir lire quand t'as envie.
Je crois que ça m'angoisserait que quelqu'un me dise « il faut que tu ne fasses plus que ça, et il faut que tous les ans, au mois d'avril, tu sortes un roman. » Parce que d'abord, j'aime bien faire des projets en ce que je disais très différents, donc ça m'ennuierait de faire que des romans. Et puis je trouve que j'ai pas envie de forcer l'inspiration non plus quoi. Enfin, tu vois, si j'ai une bonne idée ou en tout cas une idée que je trouve être bonne, bah j'y vais. Sinon, ça attendra. Hein, tant pis.
Tu crois que tu serais moins épanouie professionnellement si justement on te disait tu ne fais que des romans ou que du podcast ouais. ou que du journalisme. T'as besoin de cette équipe, clairement. D'être touche à tout quoi.
J'ai besoin de faire plein de choses. Ouais. Et parfois de me sentir un peu débordée, mais ça c'est un choix encore une fois. Hein. C'est ce qui me fait aussi. Moi je suis du genre, t'as un an pour faire un truc et je le fais dans le mois qui reste, quoi, tu vois. Ouais, mais j'aime bien la variété en fait des projets, voilà, et des rencontres. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'aime bien le fait de pouvoir écrire des livres pour enfants, mais aussi des tribunes à droite à gauche, des articles pour le magazine Parents ou le magazine des maternelles. Là, j'écris un livre de témoignage, mais je peux pas trop en dire, mais que je coécris avec quelqu'un qui a un livre sur la Shoah. Donc, c'est un truc un peu pas drôle, hein.
Mais non, mais du coup, c'est un autre projet encore, ouais.
C'est un autre projet. J'écris là un livre sur les mères. Le titre n'est pas encore voilà, mais bon, sur les qui sortira a priori en janvier, sur les mères puissantes, comment sont-elles? Et donc j'interviewe des mamans, qu'elles soient sportives, philosophes, autrices, actrices, et voilà. Et c'est peut-être que dans un an, après l'été, je me remettrai à écrire un roman. J'ai une idée en tête, mais je veux pas être que dans un faisceau voilà. J'aime bien être partie. Ou mille parts, du coup, je sais pas. Mais du coup, j'aime bien varier les plaisirs, voilà.
T'es une slasheuse. Tu connais le terme?
Non.
C'est quelqu'un qui ne peut pas faire qu'un seul métier. Il a besoin d'en faire plusieurs.
Oui, alors ça reste mes métiers. Hein. Je suis pas forgeron le mardi et le mercredi.
Non, ils ont un lien entre eux.
Mais tu fais quand même le podcast. C'est pas le même lien. Enfin, c'est pas forcément la même chose. C'est dans une autre casquette, quand même. Ouais. Puis les livres que tu fais, forcément, tu as de la fiction, mais tu as aussi, là, tu me parles de la Shoah, c'est des choses qui ne sont pas du tout fiction, qui sont plutôt documentaires, ou en tout cas, dans ce sens-là, j'imagine. Ouais. Donc, en fait, oui, tu fais, t'as plusieurs casquettes, enfin, ce que je disais tout à l'heure, qui sont pas forcément toutes, qui coulent forcément pas toutes de source, en fait. Du coup, là, on parlait de « Et que chacun se mette à chanter », Cécile va nous lire un petit extrait et après on va en parler un petit peu avec toi. On doit te demander de le pitcher, tout ça.
Eliette, j'étais hésitante. J'avais récupéré un tract à la caisse du Carrefour Market où je vais chaque lundi à 17h. C'est ma sortie du lundi. Ma journée est réglée comme à l'usine ou simplement comme celle d'une dame âgée. Je me réveille, j'écoute Luis Mariano. Je prends mon petit déjeuner dans ma robe de chambre en satin bleu. Je me plonge dans un bain brûlant pour me réchauffer, même en été. J'ai toujours froid, un truc de vieille. Je regarde Motus, je déjeune, je fais une sieste, je sors faire des courses, je dîne, je dors. La caissière Larousse, celle du lundi rousse, celle du mercredi est blonde et celle du vendredi est un homme. M'a tendu ce tract. Je n'en voulais pas, mais je ne sais pas dire non. Je n'ai jamais su dire non, alors je l'ai pris. Je l'ai parcouru rapidement, je l'ai enfoncé dans la poche de mon imperméable beige et je me suis hâtée de rentrer chez moi. C'est là, à ma place préférée dans ma cuisine, sous le portrait de Mike Brandt, assise à ma table en formica, que je l'ai déplié. Cet imperméable a appartenu à maman. Même en plein été, j'aime le porter. Maman faisait pareil. Sur ce papier étaient écrits en gros les mots « karaoké thérapie », avec un Y à thérapie parce que de nos jours, il faut mettre de l'anglais partout. On pouvait lire aussi, si ma mémoire est bonne, « Vous avez envie d'aller mieux, de souffler et de vous lâcher enfin ? Alors essayez la karaoké thérapie. » Juste en dessous du texte, il y avait un numéro de téléphone qui commençait par 08. Ma curiosité était piquée, ce qui n'arrive pas souvent à mon âge. J'adore la musique. Je n'avais jamais chanté dans un karaoké, j'étais intriguée. N'ayant rien à perdre, j'avais téléphoné. Valériane m'avait donné rendez-vous dans un café à Saint-Germain-des-Prés, une semaine plus tard, le lundi, à 17h. Ça ne m'arrangeait pas trop, c'était pile l'heure du supermarché. Les courses attendraient mardi.
Oh, c'est génial, j'adore.
J'adore ta voix.
Merci.
T'as une belle voix. Voilà.
Merci, c'est gentil.
C'est sympa, on rentre complètement dans la matière, là. C'est tout de suite, on est dans le vif du sujet.
Et on sent l'humour.
Ouais, tout de suite.
Il y a de suite, ouais. Ouais.
Et c'est un livre qui n'est pas seulement drôle, mais il est très poignant. Enfin, moi, je t'ai dit, je l'ai adoré. Les personnages sont hyper attachants. Est-ce que justement, Jessica, tu peux nous faire un petit pitch, nous dire un petit peu de quoi il parle?
Merci déjà d'avoir aimé. Alors, le pitch, c'est l'histoire de cinq personnages qui ont des vies un peu, qui traînent un peu leur vie comme des fardeaux et ils n'ont rien à voir entre eux, si ce n'est qu'ils habitent tous à peu près à Paris. Ils n'ont rien à voir entre eux, ils se connaissent pas, ils viennent pas du même univers, monde, ils ont pas le même âge, il y en a, voilà. Et donc, l'histoire est racontée par le prisme de Eliette, qui est donc une dame qui a 75 ans quasiment, et qui a toujours été une vieille fille, voilà, la fille de ses parents, et qui même à l'âge qu'elle a, voilà, n'a pas fait sa vie et c'est elle qui raconte cette histoire. Ils vont se rencontrer séance après séance, en effet, pour essayer d'aller mieux via la karaoké thérapie qui donc n'existe pas et que j'ai inventée. Voilà, et donc ils vont se retrouver tous les quatre, cinq avec la coach Valériane, qui est très mystérieuse et dont on ne sait pas grand-chose jusque tard dans le livre. Ils vont se retrouver pour chanter, pour apprendre à se libérer. Et évidemment, au fil des chansons, au fil des thématiques qui leur sont imposées par la coach Valériane, à chaque séance, il va y avoir des flashbacks dans leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils en arrivent là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'Eliette arrive à 75 ans et n'arrive toujours pas à être autre chose? Tant par son attitude que même par sa voix, elle a une toute petite voix de petite fille. Elle est restée bloquée dans ce corps quasiment de fillette. Elle s'est jamais autorisée à être autre chose que la fille de ses parents. Qu'est-ce qui fait que Pierre, qui a la cinquantaine, qui a super bien réussi dans sa vie professionnelle, est un personnage plutôt désagréable et qui n'arrive pas à pleurer, qui n'arrive pas à se lâcher, qui a des mauvaises relations avec les gens, notamment avec les enfants, malgré son écran plasma et son bel appartement. Qu'est-ce qui fait que Elisa, qui a la vingtaine, qui est infirmière en EHPAD, n'arrive plus à écouter de la musique avec des paroles? Qu'est-ce qui fait que Vincent, qui a la trentaine et qui est homosexuel, n'arrive pas à être heureux? Et voilà, et tous ces gens, via les chansons, via la musique, vont apprendre à se libérer, à aller de mieux en mieux, et puis aussi à tisser des liens d'amitié. Et donc voilà, et ces deux thématiques pour moi qui me sont chères, la musique, les chansons, je chante tout le temps n'est pas bien. Et l'amitié, parce que je trouve qu'une vie, une vie sans musique et une vie sans amitié ne vaut pas vraiment la peine d'être vécue. Et sans amour, évidemment.
Tu fais du karaoké, du coup?
Bah oui. j'aime bien. Alors, c'est marrant parce qu'il y avait un côté assez ringard avant le karaoké. Et je pense que c'est démocratisé.
C'est plus du tout ça,
Ouais, et notamment à Paris, et en province, j'imagine, il y a des salles qui s'appellent BAM, qui ont ouvert, que tu peux réserver 1 heure, 2 heures, le matin, le midi, le soir. J'ai même fait ça une fois à la sortie de l'école avec mes enfants. Enfin, voilà, c'est assez chouette, je trouve, comme discipline. Et en fait, ça m'est venu, bah, justement, parce qu'un soir, j'étais dans un karaoké, dans ce lieu qui existe vraiment, le Royal Dynasty à Aubervilliers, qui est un endroit un peu particulier, tenu par des Chinois, enfin, très bizarre, et, c'est pas parce qu'ils sont Chinois, mais le lieu est très particulier.
Le lieu est bizarre, ouais.
Le lieu est bizarre. Il existe vraiment, et je suis allée avec plusieurs équipes d'amis différents, et à chaque fois, j'observais, je regardais, saisir le micro, regarder l'écran, regarder autour d'eux et tout. Et je me disais, il se passe un truc, c'est vraiment un lieu de, c'est presque cinématographique, quoi, c'est théâtral, quoi. C'est-à-dire que, et puis bizarrement, la nana hyper à l'aise dans la vie, bah, elle est pas forcément la plus à l'aise quand elle saisit le micro. Le mec un peu timide, il prend le micro, et là, il se passe un truc, tout d'un coup, il est Beyoncé, il est Céline Dion, il est, Claude François, et donc je me suis dit, il y a vraiment, il se joue un truc. Et bon, une fois que je m'étais dit ça, il fallait que j'invente une histoire, que j'invente des personnages, que j'invente une, ouais, enfin tout ça quoi.
Et moi, justement, par rapport au tac de tout à l'heure, lorsque tu avais du mal à choisir entre le film dramatique et la comédie, ben là, en fait, c'est le mix des deux parfaitement.
Ouais, ben là, ouais, mais encore une fois, je pense que on peut aimer Claude François et aimer Reggiani, et on peut aimer la musique classique et le rap, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon c'est triste quoi, si on s'enferme que dans un style, que dans un genre. Et moi j'assume totalement, voilà, j'aime autant du Gilbert Montagnier que du, et je suis assez calée en chanson française, donc j'ai été biberonnée aux chansons de Bert Silva de 1930 ou de Jean Sablon. Et puis après, je me suis fait ma culture musicale toute seule. J'adore les Beatles, j'adore Michel Berger. On ne fait pas hyper récent non plus, j'avoue, mais bon. Voilà, je crois aussi qu'on est d'une époque, la vieille, mais en vrai, mine de rien, on n'avait pas les portables. Et quand on était ado dans sa chambre, on écoutait.
Je suis de la même époque que toi.
On fermait les yeux, on écoutait de la musique et on était
ailleurs.
Ouais. Peut-être moins aujourd'hui, sûrement moins aujourd'hui, c'est très regrettable, mais bon, c'est comme ça. Et c'est vrai que la musique, tout de suite, ça te crée un lien avec quelqu'un d'autre, quoi. Si tout d'un coup, tu dis, ah ouais, mais toi aussi, tu la connais, cette chanson, mais enfin, voilà, il se passe un truc. Et donc, j'écoute beaucoup de musique française, mais pas que, et mes enfants, mais même le plus jeune qui a 6 ans, il connaît des chansons de Barbara, de Brel, d'Edith Piaf par cœur, quoi. Et je crois que c'est ma plus grande. Non, mais je trouve que c'est chouette. Après, évidemment,
qu'il peut oui, t'as raison.
Du Jul et du je sais pas quoi, mais mais bon, quand on déjà, je trouve que tout n'est pas perdu dans la vie quand on apprécie les paroles d'un Gainsbourg, d'un Brel, d'une Barbara, d'une Dalida, de tout ça, quoi. Et encore aujourd'hui, je pense que je suis la seule, avec mon mari aussi, il est un peu comme moi, et on regarde des replays des émissions de Marité et Gilbert Carpentier sur la chaîne Mélodie, que personne ne regarde avant. Mais en fait, j'adore parce que c'est empreint d'une époque, c'était chouette, quoi. C'était chouette, tout d'un coup, t'as Claude François qui est là, qui dit salut à Mike Brandt, qui dit salut à Joe Dassin, et tout le monde chante ensemble, et tout le monde est déguisé. Et ouais, c'est super ringard, mais c'est tellement candide et chouette. Voilà.
C'était la belle époque, comme on dit. Hein.
Et c'est quoi, là, du coup, la plus belle chanson pour toi? Une seule.
C'est dur. Non, mais en fait, je trouve que c'est trop dur parce qu'il y a la chanson que je sais, que je vais aimer pour danser, une chanson que je vais aimer parce que j'ai envie de me faire du mal, donc j'ai envie de pleurer, tu vois.
On a toutes ces chansons comme ça.
Voilà, c'est ça, bien sûr. La chanson, mais en fait, c'est ça, c'est un peu la bande originale de nos vies. Et c'est vrai, on a tous et toutes une chanson qui nous évoque un souvenir, nos parents, notre premier crush, notre rupture, la naissance de notre enfant. Les chansons, c'est un peu comme des odeurs, quoi. Et c'est vrai que ça s'adapte, voilà. Et souvent, j'ai un groupe de copines avec qui on dit, ah, moi, à mon enterrement, je veux telle ou telle chanson, et on en rit. Encore une fois, on va tous mourir, donc autant en rire. Et on a déjà prévu la playlist de notre enterrement, quoi. Mais parce que je crois que la musique, ça accompagne quand même une vie.
Et du coup, voilà. la bande originale de ton, en ce moment, c'est quoi?
Alors moi là, en ce moment, tu vois, je peux autant écouter du Dua Lipa, mais vraiment j'aime bien, que du Michel Berger, mais ça parce que toujours Starmania, je suis allée le voir 4 fois, genre j'adore, là l'année dernière, hein, je suis allée le voir 4 fois, j'ai emmené mes enfants, tout, même le petit, on se fait des chorés de Starmania à la maison, enfin ils connaissent mes enfants Starmania par cœur, mais même les chansons que personne connaît, ils les connaissent. Voilà, j'aime beaucoup toujours les Beatles, j'adore, ouais. Parce que c'est toujours formidable. J'aime Elton John. En fait, il y a moins de jolies chansons aujourd'hui, très clairement, avec des jolies paroles, où tu te dis, bon, là, je chanterai encore dans 50 ans.
Et là, ton dernier livre qui est paru cette année, c'est « Vieille et gris et toujours seule, mon programme à 21 jours pour bien rater sa vie ». Donc, c'est l'anti-guide de bien-être, c'est ça, ouais. Oh, il est énorme. Oui, oui.
En fait, ouais, ça fait un peu suite à un livre un peu du même genre que j'avais écrit l'année dernière, il y a 2 ans, je sais plus quand, bref, qui s'appelait Manger du gluten, boire de l'alcool et baiser comme une histoire. Et en fait, c'est pareil, c'est-à-dire que là, je suis un peu ras-le-bol de tous ces comptes Insta, de tous ces guides qui te disent comment trouver le chemin du bonheur en 12 étapes, Alors, je dis pas que c'est pas bien, parce que j'imagine, je suis pas adepte de ces trucs-là, mais je suis sûre que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de gens, mais là, on est dans une ère où il n'y a plus que ça, quoi. T'as des coachs de tout, des coachs pour tes enfants, pour ton chien, pour ton mari, pour ta belle-mère, pour ton... Et je me suis dit, mais en fait, et puis t'as une pression, t'as des dictates, tout de l'Instagram.
Oui, c'est ça. Merde,
je suis moche, je suis vieille, j'ai des rides, je suis trop grosse. Non, je suis pas assez si, j'ai les cheveux trop longs, trop courts, trop trucs. Ah, et puis moi, mon enfant, il est pas trilingue. Oh, mince, j'ai raté ma vie, j'ai raté mon divorce, j'ai réussi. Et tu sais plus, quoi. On te dit, non, ouais. Si tu réussisses ton divorce, faut que tu rates, enfin, tu sais même plus. Et tu te dis, merde, si j'ai pas fait tout ça, c'est la loose. Et comment avoir le body summer et le truc et le machin et arrêter de boire en janvier mais reprendre la boisson en février puis finalement boire que des toi t'es là mais genre je sais plus autant de choses, quoi. Et je trouve qu'on est un peu abreuvé de diktat, quoi, et de ce genre de livre avec des titres pas possibles qui te disent que évidemment quand tu te mets à l'abri il y a moins de pluie, bon ok, mais voilà.
En même temps, comme tu dis, c'est hyper culpabilisant, tous ces tips de faire ci,
Je pense que ça part d'un bon sentiment de la part des Instagrammeurs, etc. Mais un côté vachement genre, t'as raté ta table de Noël, t'as raté ta vie, tu vois, et toi t'es là genre avec tes pauvres assiettes IKEA, et tu regardes les recettes à la télé, et t'es là, oh, merde, mais j'arrive pas du tout à faire monter mes, tu vois, et tout est devenu un peu là, et toi t'es là, et donc du coup voilà, j'ai eu envie d'écrire un livre au titre prometteur, au titre rigolo, je crois, en disant que bon, on n'est pas obligé d'être en couple mince et jeune toute sa vie et de faire semblant d'être heureux et que la vie est formidable, parce que c'est pas la vraie vie, ça, en fait. Les réseaux sociaux, tous ces trucs là. Et ça paraît idiot parce que nous on a assez de recul pour le savoir, mais
tout le monde, non.
Il y a la jeune génération, ils ouvrent Insta, ils disent waouh, et en plus elle est belle, elle truc, elle a eu 18 au bac, elle est super gaulée, et en plus nanana, et t'as vu les trucs, et t'es là, enfin je sais, j'ai des ados, t'es là, mais en fait les gars, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Il faut pas croire tout ce qu'on lit, faut avoir un peu de recul, il faut pas se mettre des pressions parce qu'on est au mois de juin et que t'as 3 kilos à perdre, bah tant pis, quoi, enfin tu vois, si tu les perds en septembre ou si tu les perds pas, encore une fois, moi j'en ris, je pense que pour beaucoup de gens c'est pas si facile, c'est vraiment un vrai sujet, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens c'est et de là découle sûrement des formes de harcèlement, des trucs, des machins, et c'est vrai que c'est compliqué, donc j'ai décidé d'écrire un livre très rigolo, j'espère, pour rigoler, quoi, tout simplement.
Oui, c'est pour
pas se prendre la tête, pas se prendre au sérieux, voilà.
Détraumatiser tout ça.
Jamais se prendre au sérieux.
Et tu nous parlais tout à l'heure un petit peu de ton actualité. Donc tu me parlais un livre avec quelqu'un d'autre sur la Shoah et t'as une autre actualité qui arrive bientôt.
Bientôt.
Dans l'année, on va dire.
J'écris deux livres en ce moment qui sortiront en 2023. Bon, sachant qu'on est déjà. Voilà, je me dis un ou deux livres par an, c'est pas mal. Donc là, je suis en train d'écrire. Enfin, là, je suis avec vous, mais je suis censée être en train d'écrire des livres qui paraîtront, j'espère, début 2024.
D'accord. Okay. Donc un sur plutôt voilà sur la Shoah, tu le disais.
Un livre de témoignage que je coécris avec une amie. Qui raconte l'histoire de son grand-père pendant la Shoah et donc je l'écris avec elle et un autre que je coécris avec une copine qui s'appelle Audrey Najar qui a aussi déjà écrit qui est scénariste et qui a écrit un super roman dont le titre m'échappe comme voilà qui est sorti il y a 2-3 ans chez La Tête, un roman un peu noir et là on fait des interviews de mamans qu'on admire ou dont on se demande mais comment font-elles. Donc ça va de bon, je peux pas trop dévoiler qui y en a, mais bon,
d'accord.
Ça va de la chef d'une énorme entreprise à une philosophe, à une comédienne,
d'accord.
À une chanteuse, à une sportive où on dit waouh, parfois elles ont 1, 2, 3, 4 gosses, mais et en même temps elles mènent des carrières incroyables hors du commun. Et comment la question qu'on se pose quoi, comment
ouais,
on fait, et donc on s'est dit bah bon, évidemment c'est un sujet qui me bah que je voilà sur lequel je m'attarde depuis quelques années via mon blog, via les podcasts, etc. Et là on s'est dit bah faisons-en un livre, donc normalement enfin on va signer, etc. Donc normalement le livre sortira début 2023.
Ok, super. On peut te retrouver donc à librairie, hein, roman ou livre pratique, le podcast.
Ouais.
Qui s'appelle
le podcast. S'appelle Serial Mother. Il y a les humeurs de Serial Mother et il y a les conversations de Serial, mais c'est le même. Ouais.
D'accord, podcast. OK. Ah, c'est le même podcast. Voilà. Non, je pensais que c'en était deux, c'est pour ça. OK.
C'est deux, mais c'est le même endroit, on les retrouve au même endroit, voilà.
Ok, d'accord. Ah, merci beaucoup. C'était super. On a appris plein de choses.
Ça va donner envie
à tous nos auditeurs de te découvrir.
C'était Jessica Zimmerman et vous allez écouter chapitre 2.
Chapitre 2. Le podcast qui parle livre.
Chapitre 2.